France Culture.
À voix nue. Cette semaine, Simone Douek s'entretient avec Francis Allais. 2. Un vieux rêve, la canopée. Francis Allais, c'est encore ce sous-bois de pin qui nous accueille, comme hier, pour évoquer avec vous le monde végétal. Nous marchions et nous parlions hier, regardant avec le botaniste que vous êtes les troncs des arbres et évoquant ici, près de Montpellier, les sous-bois tropicaux. Vous nous avez raconté comment votre activité de botaniste a commencé, comment la botanique tropicale vous a attiré et comment, le regard levé le long des troncs de ces arbres si hauts, vous avez rêvé avec votre équipe d'étudiants et de chercheurs de grimper dans leur feuillage. Le rêve s'est réalisé, donc je crois, en 1986. Et vous avez pu admirer, du ciel d'abord, cette couverture verte, touffue, serrée, à l'aspect de brocoli, comparaison suggestive que vous avez donnée de la canopée.
Dans notre connaissance collective de ce qu'on appelle la biodiversité, la diversité biologique, il y a une date critique, c'est 1982. Date critique qui est passée un peu inaperçue pour le grand public. Avant 1982, vous demandiez à un naturaliste combien il y avait d'espèces sur la Terre, il aurait dit 3 millions. Bon, sachant qu'on ne connaissait pas tout, 3 millions à la louche. En 1982, j'ai un collègue de la Smithsonian à Washington, Terry Irwin, un mec que je connais bien, que j'aime bien, qui a fait les premiers travaux de dénombrement des insectes dans une canopée tropicale. Alors, sa méthode, il n'est pas monté. Il mettait au niveau du sol un espèce de canon envoyant un gaz toxique qui montait jusque dans le haut des arbres. Et donc, les insectes étaient tués et ils tombaient sur le sol. Pas une méthode très élégante, mais quoi qu'il en soit, en faisant ce travail-là à un point A et puis en allant le faire à un point B à 100 mètres de là, il s'est aperçu que les espèces n'étaient pas les mêmes. Donc ça a fait la base d'un calcul. Et en 1982, notre biodiversité terrestre, elle est passée de 3 millions à 30 millions. Un facteur 10. Juste pour quelques heures de travail dans une canopée équatoriale.
Et encore, on ne savait pas tout, j'imagine.
Bah non, bien sûr. Et puis il y a tous les animaux, tous les insectes qui meurent et qui s'accrochent. Donc c'était par défaut. Il n'empêche que, moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, c'est là-haut qu'il faut travailler. C'est là-haut qu'il faut travailler. Les moyens, on va chercher, mais ça devenait un impératif scientifique, voyez. Parce qu'on ne peut pas se contenter de récolter les animaux morts au sol, c'est pas vrai. Et puis ça donnait les animaux, ça donnait pas les plantes qui sont là-haut.
Parce qu'on les voyait quand même.
Mais on les voit, il y a des plantes épiphytes qui poussent sur les branches des arbres. Et avec des jumelles, on voit que c'est de toute beauté. Donc il fallait monter, voilà. Alors l'affaire a commencé en 1984... Non, pardon, 1983, excusez-moi. C'est le bicentenaire des premiers vols habités. Ça se passait à Annonay, dans la patrie de la famille Montgolfier. Et là, je me suis rendu parce que je voulais faire la connaissance d'un pilote de ballon. Et je suis tombé sur Danny Cléier-Marel, avec qui je suis toujours copain, ça fait 25 ans maintenant.
Parce que c'était toujours cette idée de ballon, donc de dirigeable.
On avait eu cette idée de ballon. Vous savez, le gros avantage d'un ballon à air chaud, c'est que c'est, comment dire, la sustentation dans l'air ne dépend pas de la propulsion. C'est-à-dire même si vous avez une panne de moteur, ça ne va pas tomber, contrairement à un avion ou à un hélico. Donc c'est beaucoup plus sûr, c'est très lent, ce qui nous arrangeait. Et puis si on fait un trou dedans, moi j'ai acquis l'expérience de ça, vous faites un trou dedans, bon, il sort de l'air chaud, il suffit de chauffer un peu plus. Donc c'est vraiment l'appareil le plus sûr. Ah oui, un autre avantage, c'est silencieux. Donc la faune, elle ne sait pas que vous êtes là. Donc le ballon semblait être une bonne solution. Donc j'ai trouvé le pilote, Danny, un mec absolument étonnant, à qui on peut faire une totale confiance. C'est un pilote de montgolfière spécialisé dans les choses impossibles. Il faut vous dire que la première chose que m'a fait remarquer Danny, c'est que quand on pilote un ballon, il faut se méfier des arbres. Ah ben, je lui dis, ça tombe bien, c'est juste pour aller en plein là où il y a les plus grands arbres. Mais ça l'a intéressé, c'est une sorte de défi. L'année d'après, 1984, Danny et moi, nous faisons la connaissance du troisième larron, Gilles Ebersolt, un jeune architecte DPLG parisien qui venait de déposer sur la forêt du Pilat, près de Lyon, une espèce de plateforme en boudin pneumatique et en filet. Il avait loué un hélicoptère pour poser ça sur la forêt du Pilat. Et alors, en réunissant les compétences des deux, c'est comme ça que c'est né. J'ai commencé par faire des vols avec une montgolfière seule, avec un palmier, un panier de losier, vous voyez. Bon, je peux regarder les choses, mais ça va trop vite. Le pilote me dit, je ne peux pas ralentir, c'est le vent qui le pousse, n'est-ce pas? Je lui dis, mais arrête-toi que je puisse travailler. Il me dit, mais je ne peux pas m'arrêter. Il m'a dit, si tu veux que je m'arrête, il faut qu'on dégonfle. Ben, je lui dis, dégonfle. Ah non, il me dit, ça, je ne peux pas dégonfler l'enveloppe de mon ballon sur des arbres, parce que sinon, ça va s'accrocher, on ne pourra plus regonfler. Alors là, il a eu une idée intéressante. Il m'a dit, ce qu'il faudrait, c'est une espèce de plateforme qui entourerait notre nacelle et sur laquelle je pourrais dégonfler. Et le radeau des cimes, au départ, c'était ça. C'était un espèce de plan qui isolait l'enveloppe du ballon de la végétation sous-jacente. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'est dit, mais c'est idiot, pourquoi est-ce qu'il faut que notre appareil porte 100 kg de ballon? Il ferait mieux de porter 100 kg de chercheurs. Il valait mieux que le ballon s'en aille par en haut. Donc voilà comment c'est né. On a fait un radeau, et puis quand le radeau était en place, le ballon s'envole. Et puis nous, on monte et on travaille là. Ça supposait tout de même un moteur. On ne peut pas faire ça avec une montgolfière classique, parce que la montgolfière classique, comme tout le monde le sait, il n'y a pas de moteur, il n'y a que le vent qui le fait avancer. En 89, on a fait la connaissance d'un grand groupe japonais, Dentsu, à Tokyo, qui nous a offert un dirigeable à air chaud. C'est-à-dire, c'est comme une montgolfière, c'est de l'air chaud. Simplement, il y a un avant et un arrière, et il y a un petit moteur.
En forme de gros poisson.
Plus de gros, ouais, c'est un énorme, il est grand, il a 53 mètres de long, c'est le plus grand au monde. Et c'est un appareil magnifique qui nous a servi à transporter tous nos radeaux. Alors, je vous raconte comment ça se passe. On met ça en place au lever du jour. Simplement, au lever du jour. À cette latitude-là, vous êtes dans la brume. On a une bâche plastique qui nous sert de terrain de décollage. On met le radeau sous le dirigeable et puis on décolle. Seulement, on est dans la brume. Donc, il faut avoir volé la veille et repérer les bons endroits avec un GPS très précis. Parce qu'on ne peut pas se poser n'importe où. Le dirigeable amène le radeau, l'enfonce un peu dans le sommet des arbres, et puis il arque ses amarres et il retourne au camp. À ce moment-là, le radeau est à la disposition des scientifiques. Il recouvre une dizaine d'arbres, une quinzaine d'arbres, sans compter les lianes et les plantes épiphytes.
Quelle surface à peu près ?
600 mètres carrés. C'est grand, hein, 600 mètres carrés. 600 mètres carrés, 600 kilos. 1 kilo du mètre carré. Donc ça, c'est vraiment rien du tout pour une forêt. Ça nous permettait de tenir sur un milieu qui est lui-même assez mou, assez souple. Voilà. Donc les chercheurs montent du sol. On a un système de crawl et de jumard, il n'y a
donc
pas de problème.
On monte avec des cordes,
il faut monter avec des cordes. C'est absolument aucun problème. On n'a jamais vu qui que ce soit qui n'ait pas réussi à monter. Il faut dire que ça a fait beaucoup de progrès. Si vous êtes fatigué, vous lâchez tout. Et vous vous retrouvez comme dans un fauteuil relax. Donc voilà, vous admirez la forêt. Puis quand ça va mieux, vous recommencez. Alors on met entre 5 minutes et 3 quarts d'heure, mais ça n'a aucune importance. L'ascension vaut le coup d'ailleurs, c'est très beau.
Parce que là on voit tous les étages.
On voit tous les étages, exactement.
Tous les états aussi, du tronc.
On voit que la forêt est stratifiée, ce qu'on ne voit pas tellement bien depuis le sol. Enfin, c'est très intéressant la montée. Il ne faut pas avoir le vertige, c'est sûr.
Avant de nous trouver là-haut, avant d'être monté à la canopée, bien sûr, vous en aviez une idée, vous en voyiez quand même quelques manifestations depuis 40 mètres ou 40 ou 50 mètres en dessous. Et quelle idée vous vous en faisiez? J'ai dit ça en levant les yeux maintenant. Bien sûr, c'est pas comparable, la hauteur n'est pas comparable, les arbres ne le sont pas. Mais je lève les yeux là sur la cime de ces pins parasols.
Vous voyez qu'il est encore dans le soleil.
Mais là, c'est ça, c'est ce que je regarde. C'est que la cime là est irisée encore par le soleil, alors que on est en fin d'après-midi.
Et là-haut, on verrait la mer, par exemple.
Mais quelle idée vous faisiez de cette canopée?
Avant
d'y être.
Non, ouais, je me faisais une idée un petit peu comparable à celle d'une forêt de pins parasols. La réalité n'est pas du tout comme ça, non. Vous avez là, d'abord, vous ne voyez pas le sol. Vous êtes dans une lumière énorme, 100% bien sûr, de l'éclairement, puisqu'il n'y a pas d'ombre, par définition. Donc on est vraiment, au début, on sort du trou et on est dans un environnement extrêmement lumineux. Et puis il y a une métaphore marine qui s'impose. Ça bouge comme un catamaran en haute mer. On est amarré en permanence, comme sur un bateau en haute mer, parce qu'on n'est jamais sûr que les branches qui nous portent vont pas casser. On ne peut pas vérifier la solidité de tout ça. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont passés par-dessus bord. Fort heureusement, ils étaient attachés, donc ça s'est terminé en rigolade. On n'a jamais eu d'accident. J'ai très, très content et très fier de ça. Une métaphore marine, donc, parce que tout bouge. Vous êtes très sensible au vent, vous voyez un grain qui arrive. Vous vous dites, celui-là, il est pour nous. Et puis, quand le vent arrive, le truc se met à bouger. Ça fait comme un espèce de gros bateau. On se réfugie dans une tente et on attend que ça...
On plante des tentes aussi, là-haut.
Oh ben oui, des petites tentes, c'est facile. Sur le filet, il n'y a aucun problème.
Alors, quand même, premier, donc, on parlait de cette canopée que vous imaginiez. On ne sait trop... Est-ce qu'elle a ressemblé
non,
quand
pas
vous...
du tout. Non, non, je voyais quelque chose de beaucoup plus régulier. En fait, vous avez l'impression d'être dans un vieux jardin pas très bien entretenu. Il y a des cimes d'arbres. Et puis il y a des plantes, il y a des lianes qui poussent comme ça. Une impression extrêmement forte que j'ai eue, c'est que c'est le vrai visage de la forêt. Ce n'est pas le sous-bois. Ce n'est pas du tout le sous-bois. La forêt, son vrai visage, c'est ça.
Alors c'est aussi un choc, j'imagine,
oui,
quand on arrive.
Choc, oui, c'est un choc. D'ailleurs, c'est drôle de voir les collègues. Après, je regardais leur comportement. Ils sortent du trou d'homme et ils sont complètement sonnés.
Trou d'homme, c'est-à-dire
On monte en bordure d'un trou, quoi, comme ça, dans le radeau. Il faut bien qu'on passe au travers. Donc le gars, il s'assoit sur le bord du trou d'homme, puis il essaye de comprendre ce qui lui arrive. Et d'abord, il y a cette énorme lumière, et puis le vent qui est agréable aussi. Et puis la faune, immédiatement. Des insectes comme des bijoux, des fleurs partout. C'est ça qui nous manquait en bas. Des odeurs de fleurs indescriptibles. Des odeurs géniales, alors vraiment des roses de juin, de la glycine, des narcisses et tout ça mélangé. Et puis c'est des plantes qu'on ne connaît pas. Donc c'est aussi des odeurs tout à fait originales. Il faudrait filmer tout ça pendant qu'il en est encore temps, pendant qu'il y en a encore.
Parce que
Parce que la forêt est détruite et que dans les forêts secondaires, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ça.
Et qu'est-ce qu'on ressent alors? Qu'est-ce que vous? Vous avez ressenti sur la canopée, vous parlez bien sûr de cet émerveillement que l'on comprend.
Une très grande énergie.
Énergie.
Oui, ouais. Ça nous a tous... Vous savez que c'est l'origine de l'être humain, c'est là qu'on est apparu, nous. L'être humain, c'est un animal de canopée à l'origine. Et j'exagère peut-être, mais on a l'impression, quand on a pris un peu l'habitude, on renoue avec un espèce d'atavisme, on retrouve l'endroit où étaient nos ancêtres. Et ça devient très sympathique.
Et cette canopée, elle est accueillante? Elle n'est pas hostile, en tout cas.
Elle n'est ni hostile ni accueillante. C'est ce qui m'intéresse, c'est qu'elle n'est pas faite pour nous. Elle se moque totalement de la présence de l'être humain. C'est l'altérité, vous voyez, je sais pas comment... C'est pas fait pour nous, c'est pas fait pour vous. C'est pas contre non plus. Être contre, ça serait vous accorder une importance que, de toute évidence, nous n'avons pas. Alors on se fait petit, on essaye de comprendre, c'est d'une complexité monstrueuse.
Mais oui, parce que comment ça fonctionne tout ça là-haut? Ces plantes épiphytes, ces fleurs des arbres...
C'est l'endroit du monde où il y a le plus de biodiversité, de très très loin. Même le milieu marin avec les récifs de coraux, ça n'est qu'une toute petite fraction de la biodiversité que nous avons dans les canopées. C'est de l'ordre de 15%, pas plus. Donc vous êtes là dans l'endroit du monde le plus vivant, ça c'était mon rêve. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de ce que vous êtes venu faire,
donc
c'est clair.
Vous, botaniste?
Ah ben moi, je récolte les plantes. L'architecture des arbres m'a toujours passionné, donc là, je l'établis à portée de main. Je m'aperçois que l'arbre est effectivement une colonie, comme un corail, et pas un individu. Bon, on récolte des morceaux pour l'analyse de l'ADN. C'est comme ça qu'on a trouvé qu'il y a plusieurs génomes dans le même arbre. Ça a été aussi une secousse dans la biologie, ça. La biochimie nous a beaucoup intéressés. On compare les plantes, les feuilles du bas de la plante et les feuilles du haut. Et il y a à peu près 5 fois plus de molécules actives en haut qu'en bas.
Et pourquoi?
Bonne question. Il y a plusieurs réponses. La principale, c'est que les animaux sont en haut. 75% de la, 75% de la faune est en haut. Et là-dessus, dans ce nombre, il y a énormément d'herbivores. Donc au niveau de la canopée, les plantes doivent se défendre. C'est des molécules dissuasives qui peuvent, nous servir de molécules à fonction médicinale. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est pour se défendre des prédateurs.
Donc elles se défendent et du coup
Il y a une toxicité qui, utilisée à faible dose, intéresse les médecins.
Je crois que vous n'avez pas assez parlé non plus, à mon avis, de... Vous avez parlé de ce que vous avez vu, mais des sensations, encore une fois, que l'on a. Vous dites que vous fonctionnez beaucoup avec vos sensations.
Mais on n'a pas tellement le choix, à vrai dire. Ça vaut le coup que je vous raconte une nuit là-haut. Si on décide de passer la nuit là-haut, c'est qu'il fait beau. On ne part pas par une nuit d'orage. Donc vous avez le ciel au-dessus de vous, sans aucune pollution lumineuse. Vous voyez toutes les étoiles. Vous voyez la Voie lactée qui traverse tout ça. C'est absolument génial. Vous regardez au travers du filet et vous avez les lucioles qui clignotent. C'est un spectacle difficile à décrire, tellement c'est étrange et tellement c'est beau. N'oubliez pas le concert qui est au début de nuit, il est à son maximum. Et là, c'est un concert très étonnant parce que là aussi, ça s'arrête d'un côté, ça reprend de l'autre. On a l'impression qu'il y a un chef d'orchestre. Tout d'un coup, le vallon devient silencieux, puis c'est la crête qui se met à crier, et puis ça change Et puis au cours de la nuit, ce n'est pas les mêmes animaux qui chantent. Vous avez des oiseaux de nuit, vous avez des primates, des dahuas, des trucs très curieux avec des sons tout à fait étranges. Et les odeurs aussi, parce qu'on est entouré de fleurs. Ce n'est pas du tout les odeurs un peu tristouilles du sous-bois. C'est des odeurs magnifiques et la nuit, elles sont exacerbées. C'est comme les jasmins ou les glycines chez nous, c'est la nuit qu'il faut les sentir. Pourquoi ? Parce que les pollinisateurs sont nocturnes et donc c'est le moment de les attirer. On a un peu de mal à dormir, à vrai dire. Un biologiste qui est là-haut, on a du mal à fermer l'œil. Ça serait dommage de dormir, voilà. Ce n'est pas non plus d'un extrême confort, parce que dès que le jour arrive, vous êtes dans la brume, la couverture devient trempée et ça ressemble un peu là aussi à... Au lever du jour sur un voilier en pleine mer, on est un peu mouillé, un peu fatigué, un peu... Voilà, il faut vite un café.
Et après on sèche, le soleil arrive.
Le soleil arrive très vite et on sèche très vite. Et c'est vrai qu'on est animé là-haut d'une énergie assez étonnante.
Alors, c'est vrai aussi, Francis Allais, que vous nous avez fait remarquer que c'est un vivier extraordinaire pour la recherche scientifique, pour la recherche pharmaceutique.
Oui.
Au fond, de quoi est-elle prometteuse, cette canopée ? Puisque finalement, vous n'en êtes qu'au début de vos observations.
Oui, c'est vrai. Attendez, je me dis que ce qu'on lui fait jusqu'à présent, c'est d'y prélever du bois. Donc on coupe les arbres au niveau du sol. Tout s'écroule. Bon, je ne plains pas ceux qui font ce métier-là. Ils sont extrêmement riches. Mais cependant, ça n'est que du bois. Donc la valeur ajoutée, elle est de toute façon assez faible. Donc c'est le moyen le plus destructeur d'utiliser la forêt, c'est certainement pas le moyen le plus rentable. Le moyen le plus rentable, c'est d'utiliser les molécules et les gènes qui sont là-haut. Regardez la valeur ajoutée que développent les industries pharmaceutiques, vous verrez, alors là c'est vraiment des niveaux astronomiques. C'est du gaspillage de couper le bois, c'est ça que je me dis. Il faudrait que dans l'avenir... Enfin, l'avenir, il faudrait se dépêcher, parce qu'il est assez bref.
Mais quel pourcentage de cette forêt primaire reste aujourd'hui ?
Ouf, attendez, dans 10 ans, c'est fini. Dans 10 ans, c'est-à-dire que c'est 3 fois rien.
Sauf si on s'arrête de couper le bois.
Oui, mais je vois pas quelle pourrait être la motivation pour des grands chantiers d'abattage d'arrêter tout d'un coup leur business.
Je crois que vous faites une suggestion qui est peut-être utopique ou utopique, mais Francis Allais...
Utiliser plutôt les molécules.
Et c'est ça, et faire de l'industrie...
Simplement, un coupeur de bois, il ne va pas se changer comme ça en industriel de la pharmacie. L'idée, ils la connaissent, ça tarde à se concrétiser. C'est pourtant, à mon avis, le seul espoir qui nous reste de sauver ces dernières forêts primaires. J'en vois pas d'autres. Si ça ne marche pas, là, je crois que c'est trop tard.
Mais vous avez fait, Francis Allais, une liste des domaines de recherche qui intéressent la canopée, ou qui sont intéressés plus exactement par la canopée. Alors voilà, je l'ai là sous les yeux. J'ai compté 28 domaines de recherche.
Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans ?
Mais rien ne m'étonne, mais je trouve ça, je ne sais pas, aérologie, bioclimatologie, biomécanique,
biologie. Quand l'Institut Pasteur, par exemple, est venu nous rejoindre, ça a été un vrai bonheur et une très grande surprise. Il cherchait le vecteur du virus Ebola. Je ne sais pas si vous avez suivi ces fièvres hémorragiques qu'il y a en Afrique centrale. On connaissait la fièvre, on ne savait pas quel était l'animal qui transportait. Il était probablement sain, un porteur sain, bourré de ce virus. Bon, ça y est, ils ont trouvé, c'est des chauves-souris. Mais on ne pouvait pas, au départ, prévoir que l'Institut Pasteur allait chercher un virus dans la canopée. Ça, c'est une excellente surprise.
Alors, il y a plein d'autres domaines.
Oui.
Je lis par exemple, parce que je ne peux pas tout dire, mais bon, en bioclimatologie et en aérologie, bien sûr.
Ah, ça, c'est les molécules volatiles. Ça, c'est aussi un domaine passionnant. On s'est aperçu que les arbres, c'est des collègues allemands de l'Institut Max Planck. Ils ont fait des analyses de l'air qui entoure les feuilles d'arbres. Ils sont aperçus que ces arbres émettent dans l'atmosphère des molécules volatiles spécifiques, c'est-à-dire tel arbre émet telle molécule, tel autre arbre en émet une autre. On s'est demandé longtemps à quoi ça servait, d'autant plus qu'il y a des molécules là-dedans qui sont assez malhonnêtes. Hein. Il y a le méthylmercaptan, par exemple, c'est assez étonnant de voir un arbre émettre un polluant dans l'atmosphère. Mais bon, c'est comme ça. C'est des doses tellement minimes que ce n'est pas vraiment de la pollution. Mais nous ne savions pas à quoi ça servait. C'est l'Institut de recherche sur l'Amazonie qui a trouvé la solution. Autour de ces molécules volatiles, qui partent dans l'atmosphère, s'agglomèrent les gouttes d'eau qui vont changer en pluie. Ça veut dire que l'arbre, il contrôle la pluie dont il a besoin. Effectivement, sur ces grandes forêts équatoriales, il y a des pluies très fréquentes, pratiquement chaque jour. Et c'est comme ça que ça marche. Même si l'air est bourré de vapeur d'eau, s'il n'y a pas de germes, il ne pleuvra pas. Et eux, ils fournissent à la fois la vapeur d'eau et les germes. Donc l'aérologie, vous voyez, ça a eu un grand succès sur cette plateforme.
L'entomologie, évidemment.
Ouf, alors là, c'est les grands gagnants. L'ennui avec eux, c'est qu'ils sont totalement débordés sous des millions d'espèces. Ça se compte en millions, les espèces nouvelles. On nous demande parfois si on a trouvé des animaux nouveaux. C'est rigolo comme question, parce que la vraie difficulté, c'est de trouver des animaux déjà connus. Je dis pas la même chose pour les plantes, hein, mais dans le domaine des insectes, le type, il monte le matin, il récolte 80 espèces nouvelles dans le groupe qu'il étudie. C'est astronomique, réellement.
Francis Allais, vous avez une sorte de rêve à propos de la canopée, et vous l'avez même dessiné, vous en avez fait un croquis
oui.
votre livre sur le radeau des cimes, et ça s'appelle une station canopée. Et cette station canopée, où on voit une espèce de vie qui s'installe, de vie scientifique, qui s'installe sur la cime des arbres, sur la canopée. Mais quelque chose qui me fait rêver, moi, là-dedans, c'est que vous avez mis en place un petit jardin botanique, en plus.
Oui. Il faut vous dire que depuis le travail de Terry Irwin, où notre biodiversité est passée de 3 à 30 millions, tous les grands pays développent leur technique d'accès à la canopée. Nous, en Europe, on travaille avec des ballons et des plateformes. Mais aux États-Unis, par exemple, ils travaillent avec des grues. À Panama, ils m'ont fait d'ailleurs remarquer que c'était des grues françaises, Potin. J'en ai rien à foutre. C'est des grues. Donc ils travaillent comme ça. Ils ont une nacelle le long du fléau, ils peuvent régler la hauteur de la nacelle, les scientifiques sont dans la nacelle, ils discutent par radio avec le grutier, donc ils ont à leur disposition un cylindre de forêt. Seulement, ils ne peuvent rien cueillir. S'ils cueillent, leur appareil est fixe, bien sûr. Si chacun commence à cueillir, ils abîment leur propre site. Et puis surtout, il est apparu une critique beaucoup plus fondamentale sur ces appareils comme les grues américaines. C'est que la forêt équatoriale s'est fondée sur la diversité. Alors, vous connaissez cet endroit-là, vous êtes sûr que 100 mètres plus loin, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi cet endroit-là plutôt que l'autre ? Nous, avec notre appareil mobile, on couvre un peu cette diversité. Eux, ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'on est venu travailler avec nos appareils autour des grues de la Smithsonian.
Mais dans cette station canopée, alors on pourrait travailler, avoir un laboratoire.
Bien sûr, évidemment, ce qu'ils font avec les grues, nous, on ne peut pas le faire. C'est par exemple observer le même objet pendant 6 mois. Ça, c'est clair qu'avec un radeau, on ne peut pas le faire. Donc la grue des Américains et le radeau des Européens, ça se complète parfaitement bien. L'idée, vous voyez, c'est de grouper tout ça sur une même station et de faire une étude globale de la canopée. Ça serait vraiment bien, ça. Mais enfin, c'est encore un peu un rêve.
À quand, Francis Allais, la prochaine mission Radeau des Cimes ?
Dès que j'aurai l'argent. On a fait une demande à la Banque mondiale et j'attends la réponse.
Vous avez souvent cité le baron Perché dans vos...
Ah, c'est vrai que j'ai toujours adoré
Italo
grimper
Calvino.
Aux arbres. Mais je ne suis pas le seul. Italo Calvino a joué un grand rôle. C'est un peu notre saint patron. Hein. Ça, faut reconnaître que ce bouquin-là, il donne envie de grimper aux arbres. Puis tous les gamins ont toujours envie de grimper aux arbres. D'ailleurs, on a fait un appareil spécial. Notre architecte, Gilles Bersol, a fait un truc qui s'appelle ICOS, qui est un petit logement. On peut loger à 3, 4, un peu serré, 2, 3. On met ça dans le haut d'un très grand arbre et on ne fait plus aucun bruit de moteur. Ils ont une petite cuisine, ils accrochent des hamacs, ils ont des bâches quand il pleut. Et quand il fait beau, ils ont une petite plateforme d'observation au-dessus. Les zoologistes, pour eux, c'est admirable, ça. Les animaux n'ayant jamais vu l'homme, non seulement ils n'ont pas peur, mais ce que vous faites les intéresse, donc ils viennent. Pour des zoologistes, c'est parfait. Ils ont trouvé des crabes comme ça. Qui est-ce qui aurait pu imaginer qu'il y avait des crabes là-haut ?
Ah oui, parce que vous dites qu'il y a des aquariums aussi là-haut.
Il y a des aquariums, effectivement, des superbes aquariums.
Qui recueillent l'eau.
Oui, c'est ça. Des plantes qui sont comme des pluviomètres. Donc il y a 20 litres d'eau en plein soleil, remplis tous les jours avec de l'eau fraîche. C'est vraiment de la biologie au top, ça. La vraie difficulté, c'est de faire redescendre les zoologistes de leur icône. Ça fait parfois beaucoup de mal. En tant que chef de mission, je suis parfois obligé d'aller les chercher.
C'était À voix nue. Simone Douek s'entretenait avec Francis Allais. Réalisation, Gilles Davidas. Demain, la condition tropicale. Mm.